qu'est-ce que j'allais dire d'autre?
Ouais, le Bouska Focus.
Ouais, le fameux Bouska
Focus. Du coup, ouais, en intro, on entend Hamad.
On entend Hamad, ouais.
Histoire vraie, du coup, le vocal, tout vrai, ça. Il envoie vrai, vraiment le vocal qu'il en envoie... disant, il faut qu'il envoie du sale pour son
Bouska Focus. Ouais.
Ok.
Ouais. Il veut pas me dire la compo, en plus. Il me dit, si Jul fait ce qu'il dit, t'as une compo de fou sur le track, genre. J'ai dit, ah ouais, comment ça, un truc? Il me dit, ah, je te dirai pas, je veux pas spoiler si ça se fait pas. Il m'a pas dit. Moi, okay. Je préfère qu'on dise que OB, c'est un personnage qui aime bien se challenger, qui aime bien aller en studio avec plein d'artistes différents, que ce soit du développement, que ce soit un plus confirmé, peu importe la casquette qu'on lui donne. Et pour moi, le fait d'être talent scout, c'est une. Pas un métier, mais c'est une part à part entière du directeur de artistique aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui. Cette boîte a été montée pour me protéger, pour que je récupère mes droits, pour que je puisse facturer, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compos qui pensent que pour être payés, ils sont légitimes de demander une somme d'argent au label, à l'artiste, mais sans savoir faire la différence entre le cachet musicien, entre le flat, entre pourquoi le label a besoin d'une facturation.
Je me dis, là, en voyant tes différentes casquettes, là, dans tout ça, est-ce que tu te reposes? Et si oui, comment tu fais?
Là, pour le moment, je vais pas te mentir, je fais pas, hein.
Le burn-out ou autre, ça va?
Pour le moment, ça va. Okay. Pour le moment, ça va et j'ai une mentalité qui dit, frère, c'est maintenant.
Ouais.
T'as pas le choix, genre.
On est sur De La Musicopolis, mais vous savez déjà...
De La Musicopolis.
Dans le monde de ton podcast 100% dédié au beatmaking et au DJing, Chris de DLM4 pour vous accompagner, toujours épaulé par Duponcel et Jelly Host. Tout d'abord, on tient à vous remercier pour les différents partages, likes, j'aime sur les différents derniers épisodes. Ça nous va droit au cœur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute, YouTube et ainsi de suite. On est ensemble en tout cas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un beatmaker, directeur artistique et talent scout. Tout ça en une seule et même personne. Âgé de 23 ans, il a bossé avec D.A. Uzi, dans le projet Classique Organisé, pas mal de fois avec Bébé Jacques, Edge également, Zamdan, Olpi, Hamza ou encore SDM.
OB, comment est-ce maison, comment
ça va? Ça va frérot et toi?
Ça va super bien. Merci à toi d'avoir accepté l'invite et la réactivité.
Plaisir. Avec grand plaisir.
Déjà avant de commencer, à l'heure où on enregistre, lien du son de SDM et Disque d'Or, t'es en coprod sur Ragnar, donc félicitations.
Merci beaucoup frérot.
Très gros morceau d'ailleurs.
Ouais, c'est pour bien commencer l'année. Ça. Ouais, premier single, hein, il a annoncé l'album avec ça.
C'est ça, gros clip, tout ça. Donc, non, balèze, balèze. Ok.
Vraie histoire derrière la prod aussi, qui est assez marrante. Je pourrais pas l'expliquer.
On aura l'occasion d'en
parler. On en reparlera.
On aura l'occasion d'en parler, t'inquiète pas. Dans ta bio Instagram, on peut voir que tu jongles entre la capitale et Lille. En off, tu nous as dit que tu n'étais pas trop à Lille ces derniers temps. Mmh. Mais est-ce que tu peux brièvement nous dire d'où tu viens, ton enfance, ton rapport avec le son plus jeune?
Ouais, avec grand plaisir. Pour t'expliquer, ma vie a été un périple, dans le sens où je suis né dans le 94, donc pas très loin d'ici, mais j'ai fait un mois de ma vie, donc autant dire que je me souviens de rien.
Où exactement dans le 94?
Nogent.
Ok, Nogent sur Marne.
À Nogent, mon père après, avec ma mère, sont repartis à Lille directement.
Ok.
Où j'ai fait toute mon enfance là-bas, école, foot, la totale quoi. Mm-hmm. C'est là-bas aussi où j'ai commencé la musique, par pure passion.
À quel âge à peu près la musique?
14-15 ans en vrai, hein, mais... Tu sais, c'était de la curiosité. J'avais commencé par DJing parce que j'aimais bien regarder.
On est vraiment dans le bon podcast là.
Ouais, le bon podcast, je suis au bon endroit. J'avais commencé par ça, puis j'avais pu parler avec un DJ à l'époque qui était Espoir Belge, qui au final n'a absolument pas percé.
Okay.
Mais qui m'avait dit, écoute, si tu veux avancer dans la musique, il faut que tu apprennes à produire.
Mm-hmm.
C'est là où j'ai découvert FL Studio et c'est là où j'ai découvert les tutos et le logiciel, installer le logiciel. C'est là où j'ai mis les premiers virus sur les ordi de mes grands-parents, des trucs comme ça, tu vois. Et après, je suis parti en 2018 pour les études. J'ai traversé toute la France. J'ai atterri à Marseille où j'ai fait 4 ans.
Okay.
Avant d'arriver à Paris, là, en début d'année, où ça a encore été un autre coup d'accélération.
Okay.
Mais je suis content. Ça a fait beaucoup de voyages, beaucoup de paysages, beaucoup de gens rencontrés.
Finalement, déjà, juste en parlant de tes voyages, quand on voit justement les prods, tout ça, on se dit
ça voyage.
Des connexions qui ne sont pas anodines.
Non, ouais, ça parle. Hein. Tu prends l'époque Zamdan, Classico Organisé, où il y a beaucoup de Marseille. Là, Edge Alpha One, le 20 000 qui a été fait, le Edge Ratus avec J'adore, tout Bébé Jacques, bah du coup c'est plus parisien, enfin tu vois c'est cool. Et au final ça permet même, j'ai toujours des liens avec les gens de Lille, où je parle souvent avec Sto, avec Bécard, je parle souvent avec l'équipe de North Island notamment, tu vois. Parce que ça reste mes frérots, ça reste la base, donc si on peut faire briller le 59 avec plaisir, mais toujours pareil, beaucoup de liens avec les gens de Marseille, du 13, Et beaucoup de liens forcément avec les gens d'ici, hein, vu qu'on y vit.
Ouais. Gros shout-out, en tout cas, Noir Island, ils font le taf là-bas, dans le Nord. Hein.
Ouais, c'est très, de mettre la lumière, c'est cool. C'est cool, c'est cool de ouf, c'est de faire bouger les choses.
Et du coup, 14-15 ans, début dans le son, avant le DJing, est-ce qu'il y a des producteurs dont la musique t'a parlé un peu plus jeune, qui t'ont donné envie de te lancer en même temps que tu checkais les différents tutos?
Il y en a plein. Tu sais, j'ai eu plein...
De différentes périodes.
Ouais, plein de périodes. En plus, ce qui était marrant quand j'étais assez jeune, tu vois, c'est que genre 2013, 2014, 2015, j'étais capable de t'écouter des sons comme Bison de Cariz, comme Neuf de Yveron, tu vois, des trucs qui peuvent être grave énervés.
Ouais.
Et le son d'après, tu basculais sur un Drake Krulov avec The Weeknd, un Hold On We're Going Home, tu sais, des trucs beaucoup plus mielleux.
Ouais.
Et j'avais plein d'influences comme ça, en fait, qui allaient à droite, à gauche. J'aime pas rester que dans un style. Et d'un autre côté, je pense que c'est ça qui a fait une bonne base de ma culture musicale, on va dire.
Et c'est ce qu'on voit justement aussi sur tes crédits, du coup.
Ouais, en fait, j'aime pas me limiter qu'à un style, dans le sens où j'aime pas... ouais, la Tip Jules, par exemple, c'est OB. Moi, okay. Je préfère qu'on dise que OB, c'est un personnage qui aime bien se challenger, qui aime bien aller en studio avec plein d'artistes différents, que ce soit du développement, que ce soit un plus confirmé, peu importe la casquette qu'on lui donne, et qui te vend en fait un projet. Écoute, t'as envie de travailler quoi? Bah, j'ai envie de travailler tel type de son. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Redonne la cape, attends, je vais essayer autre chose. Et tu vois, bosser des trucs... des trucs beaucoup plus particuliers. C'est d'ailleurs ce qui donne 20 000 avec Edge et Alpha One, parce que pareil, il y a une belle histoire derrière ce morceau.
Okay. T'es chaud parce que ça aussi, t'inquiète, on va en
on
parler.
Va en parler.
Vraiment, parlons-en. T'es dans la sélection, mais tranquille, on y arrive petit à petit, t'inquiète, on y arrive. Mais du coup, ouais, tu parles d'accompagnement, tout ça. Avant aussi de parler de cette partie DA que t'as, au niveau de la prod, t'apprends du coup solo, tuto à fond, personne derrière qui t'accompagne?
Non, vraiment personne, j'apprends sur le temps en vrai. Je pense que je fais beaucoup d'erreurs. Dans le sens sur les prods que j'envoie, les premières prods que je sors.
Ah ouais, ok, direct, toi, dès que t'as commencé à produire, tu t'es dit, j'envoie.
J'étais
prêt?
Non, je me sentais pas prêt, mais j'ai toujours fait cette bêtise parce que c'était le seul moyen que j'avais de faire un retour.
Okay.
Dans le sens où.
Dans ton entourage, t'avais pas quelqu'un qui a pied dans la musique?
Personne, j'ai pas d'un point de vue famille. J'ai mon parrain qui jouait un peu de guitare, tu vois, mais qui était pas, entre guillemets, capable de me faire un retour à proprement parler sur une compo. Même au niveau de mes amis, j'avais personne qui faisait ça à cette époque-là.
Okay.
Et même, je connaissais pas encore les gars de North Island et tout, ça arrivait après. Donc, c'était compliqué, en fait, d'avoir un retour. Et les seuls retours que je pouvais avoir, c'était soit directement via des artistes avec qui je pouvais parler sur les réseaux, soit directement avec des compos, pareil, avec qui je parlais. Et ça a été beaucoup de débrouillardise. Beaucoup de collabs, beaucoup de débrouillardise. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que j'ai avancé, je pense, beaucoup. Et ce qui donne aussi le fait que j'adore collaborer, pour mélanger les couleurs, notamment. Et voilà, ça fait l'avancée globale, tu connais.
Ok, très bien, très bien. Bon, il est temps d'en parler, puisque je vois que t'es à fond dessus, là. Dans notre podcast, du coup... Comme tu peux le savoir, si tu as pu en écouter des épisodes ou non, on a un format qui s'appelle Check les crédits. On aime bien du coup savoir un petit peu les coulisses, les connexions entre les artistes, comment la prod s'est faite. Du coup, on a sélectionné quelques morceaux pour toi et libre à toi de nous dire jusqu'où tu veux, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Premier morceau qu'on a choisi, c'est le Bouska Fokoff avec Bébé Jacques. Déjà, on retrouve en coprod le chroniqueur sale.
Ouais.
Et avant même ce morceau, Bébé Jacques, c'est un artiste avec lequel tu collabores depuis pas mal de temps. En off, justement, tu as pu nous expliquer que tu l'accompagnais de soi par rapport à ta boîte d'édition et plusieurs choses aussi à côté.
Je ne l'édite pas, mais on a fait pas mal de prod ensemble.
Justement, tu es sur plusieurs de ces projets. Ouais.
Je l'accompagne notamment sur le tour.
Backer aussi.
C'est pas la bonne casquette, tu connais. Non, ça a été un appui plus que du bac pur et dur. De toute façon, il est dur à baquer, hein, le frère. Il est très dans l'interprétation.
C'est donc, ça. Donc, ça va être difficile de...
Non, tu t'appuies quand il faut appuyer, mais il se débrouille très bien tout seul. La lumière, c'est lui qui doit la garder. Okay. Mais on l'accompagne sur le tour, on l'accompagne dans la vie de tous les jours. Tu vois, l'objectif, c'est d'être un peu ses appuis sur qui peut se reposer quand il en a besoin.
D'accord.
Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre?
Ouais, le Bouska Fokoff.
Ouais, le fameux Bouska
Fokoff. Du coup, ouais, en intro, on entend Hamad.
On entend Hamad, ouais.
Histoire vraie, du coup, le vocal, tout vrai, ça. Il envoie vraiment le vocal en disant qu'il faut qu'il envoie du sale pour son
Aeros,
Bouska
Fokoff. Ouais. Okay. Aeros, le DA de Bébé Jacques chez Warner.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est marrant parce que c'est un morceau qu'on vient de sortir, Poésie d'une pulsion 2. Mmh. Du coup, stratégiquement, on avait décidé de le sortir avant Nouvelle École. Je pense que ni Bébé Jacques, ni le chroniqueur sale, ni moi, ni qui que ce soit d'ailleurs pourra te dire qu'on s'attendait à ce que ça donne autant d'expo à Bébé Jacques. Mm-hmm. Une expo, on s'en doutait, mais autant, peut-être pas. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé, c'est que Posi d'une Pulsion 2 est dehors. On avait fait une sorte de mini-release au Beaux-Arts. On avait invité une cinquantaine de personnes. Enfin, c'était un événement un peu pirate, un peu marrant. Mais ce qui restait dans un cadre quand même assez sympa parce que t'es au Beaux-Arts, mine de rien, ouais. Tu vois, c'est pas rien.
Et ça collait en plus avec
le. Ouais, ça collait avec la. Même il avait fait faire une grande représentation de la cover de 2 mètres sur 2 mètres où lui, pendant qu'il faisait un show, en fait, il y avait une peintre qui était en train de faire la cover. Tu vois, enfin, il avait fait un vrai truc. Ouais, ouais, ouais. C'était le concept était cool. Et ce morceau-là arrive parce que Nouvelle École sort, il y a une forte expo. Si je te dis pas de bêtises, c'est juste après, hein, on doit être aux alentours du 11 et tout. En plus, on a une session studio, on doit faire le morceau. Une fois que le morceau est fait, je crois qu'il est clippé 2 ou 3 jours après et ça sort dans les 15 jours qui suivent. Tu vois, à la base, okay. c'était un planning comme ça. Au final, on avait gagné une semaine parce que c'est sorti fin juin, 30 juin, si je te dis pas de bêtises. Mais on fait le morceau. En plus, c'était une époque. Bah, on avait terminé le studio sur Bébé Jacques. On n'était pas trop retourné depuis. Puis là, on y retourne. On savait typiquement le type de DA qu'on voulait prendre. Et Rossi, il arrive. Il a le vocal d'Amad. Il dit Bébé Jacques l'entend. Il dit viens, on le met au début. Tac, on glisse au début. Et le sale arrive. Il sort ses petits doigts. Boucle de piano. Ok, ça va tout seul. Prenant 40 minutes. Bébé Jacques qui arrive, qui avait écrit le texte. Il rentre 2 prises, 3 ingés dans la pièce, fin du morceau en 1 heure.
Ça, c'est
terminé.
Fabrice, j'ai remarqué.
Terminé.
J'ai pu croiser quelqu'un qui bosse chez Blue Sky à un event, je ne sais plus. Il m'a dit pareil, il a pu assister à une séance studio. Et
c'est tout droit. Ouais. C'est... En fait, ce qui est marrant, tu vois, bon, NBOW a été bossé un peu différemment, mais Posi d'une Pulsion, quand il appelle ce projet comme ça, bah, mine de rien, je trouve que ça image vraiment ce qui se passe. Parce que l'objectif, c'est vraiment que tu captes ce type de pulsion en fait, au studio. Et. Des fois, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Des fois, tu vas sûrement te manger un mur, tu vas faire un morceau qui est plus plat. Mais des fois, juste une boucle de piano ou un groove sur des drums, des trucs comme ça. Il va dire, ouais, les gars, c'est ça, attendez, j'ai un truc. Et là, ça part, il gratte, il rentre, one shot, 2 prises. Tu gardes la meilleure, mais généralement, on garde souvent la première parce que c'est celle qui est la plus vivante, parce que c'est celle qu'on ne connaît pas. Et hop, on garde et on ne bouge pas.
On a pu voir le quasi le même rendu pour le en son 1 heure au final, hein, avec
Andrés. Ouais, c'est ça.
Chroniqueur sale aussi. Il y a eu une légère modification sur la fin du son que lui voulait. Mais sinon, pareil, c'était du.
Quand on regarde
la vidéo, c'est pareil.
C'est
hein.
du one shot, il rentre one shot. Et même NBOW, c'est une grande partie ça. Tu vois, il n'y a pas de drop. Et je pense qu'il y a un morceau qui l'illustre particulièrement, c'est Zandvoort Palace avec Sofiane Pamar. Mm-hmm. Où ce qui est encore plus beau, c'est que les deux sont dans la pièce, les deux sont dans la cabine. Sofiane joue. Il avait juste fait écouter on va dire la première mélo que t'entends à Bébé Jacques en disant est-ce que ça peut te plaire ça. Bébé Jacques dit ouais c'est bon on part et c'est que de l'impro en fait. En plus tu l'entends, il y a une petite faute dans le morceau à un moment et c'est pas grave vu que le son est tellement beau que est tellement bien fait, c'est tellement dans l'émotion et dans l'instant que tu peux pas le reprendre.
Ouais.
Bref, on a dévié, excuse-moi.
Non, c'est lourd, c'est cool. Deuxième morceau qu'on a choisi, du coup, t'en parlais tout à l'heure, c'est 20 000, Edge, Alpha One. On te retrouve du coup sur le morceau, sur le projet Offshore. Mm. On a en coprod Daryl Wright.
Ouais.
Et
c'est pour Daryl et Disnox.
Disnox, pardon.
Pareil, qui travaillent beaucoup avec moi, mm-hmm. qui sont édités chez moi. Et belle histoire derrière ce morceau parce que je recrute, c'est pas le bon terme. Mais je trouve entre guillemets Edge par une pub Insta là, au moment où il sort Offshore, qui était le premier morceau solo qui sortait à l'époque.
C'était mal à cover, donc tu peux pas louper.
Même pas le projet, hein, okay. Vraiment le morceau. Putain, j'ai un doute si c'est Offshore, du coup, tu mets le doute. Bref, il sort son premier single.
Ouais.
J'ai en plus un pote qui m'envoie, qui me dit tiens, tu penses quoi de cet artiste grave cool. Je lui dis putain, c'est chaud de ouf. Et je le contacte. Il a quoi, il a 2000 ou 3000 followers, même pas. Quasiment rien, il me répond direct, ouais frérot, trop chaud, t'es chaud, on se capte, tout ça, puis ça traîne un peu, puis un jour je monte à Paris pour le travail, j'étais à Marseille à cette époque-là, on se voit chez lui, dans son ancien chez lui, où il me fait écouter un peu le projet qu'il avait fait, qui était les prémices de du coup Offshore, où il y a 20 000.
Okay.
Il me dit, il me manque un morceau, j'aimerais bien le bosser avec toi, tout ça, t'es chaud, on s'organise. Je te parle de ça, c'était début novembre. Je dis, bah écoute, je peux remonter fin décembre, donc c'est okay. Longtemps après. Là, il aurait eu le temps de faire plein de morceaux. Tu vois, il me dit, ouais, trop chaud, vas-y, viens, on se cale ça. Du coup, on se prend une session au Goldstein et je dis, bah écoute, je viens avec une équipe avec qui j'aime bien bosser. Je pense que ça peut être intéressant de bosser tous ensemble. Ils aiment bien ce que tu fais aussi, let's go. Il me dit, vas-y, mon ref, chaud, ramène. Donc, je dis à Daryl Disnox, les gars, venez avec nous. Il y a Richie, un frérot de Lille avec moi qui nous accompagne aussi pour assister à la session, tu vois. Mm-hmm. Et on arrive à cette fameuse session. Et je lui dis, il m'avait envoyé le lien SoundCloud du projet à cette époque-là. Et il m'a dit, arrive avec une idée, propose-moi une idée, on voit ce qu'on fait. Je lui dis, bah écoute frérot, j'ai bien poncé le projet, j'ai bien écouté le projet. Tu m'as dit que dans ton projet, l'histoire, c'était de raconter un peu la vie parisienne. T'as envie d'avoir des interludes, les galères du Parisien, parce que c'est chez toi, ça te rappelle tout ça. Il me dit, ouais, c'est carrément ça.
Et vu ce que tu nous as dit en off, tu les connais. Tu les
connais, les galères. J'en ai vécu quelques-unes. Mais du coup, je lui ai dit, bah écoute frérot, moi dans le projet, je trouve qu'il y a beaucoup de... Soit c'est très synthétisé, soit c'est très piano. J'ai envie, soit on garde ta couleur, on joue un banger un peu à la guitare, mm-hmm. pour ramener, parce que mine de rien, la guitare, ça reste un instrument que t'entends à Paris, c'est pas anodin. Puis ça peut te ramener à la fois une couleur qui est plus ensoleillée par moment. Sachant qu'au moment où je lui dis ça, il n'y avait pas le morceau de Dacha, je ne l'ai jamais écouté, qui est juste après 20 000. Enfin, un ou deux morceaux juste après 20 000. Et je lui dis, sinon, si tu aimes la prise de risque, et c'est un peu moi ce qui m'anime en ce moment, c'est que j'aime bien les morceaux two-step. Et je trouve qu'en France, à cette époque-là, ce n'était pas trop fait. Mmh. Il me dit, ah, two-step, ouais, chaud. Hein. Et là, je le regarde, je dis, après, si tu es doublement joueur, on fait une two-step à la guitare. Et il me dit, putain, là, tu me chauffes et tout, putain, faut voir. Ah, je sais pas, mais je suis joueur et tout. J'ai dit, moi non plus, hein, ça se trouve, on va faire un morceau, il va être nul, on va l'écouter à la fin, ça va être nul à chier, gros. On pourra pas sortir ça, tu vois, on sera écœuré. Mais vas-y, c'est une prise de risque qu'on a envie de prendre. Mm-hmm. Ouais, vas-y, viens chaud, on l'essaie. Puis on essaie, tu sais, on pianote. Je sais plus si c'est Disnox ou Daryl qui commence à sortir un peu la guitare pour trouver les trucs, la première base du morceau. Et ça part, Daryl qui commence à mettre la rythmique, moi je rajoute, on se fait des instruments, enfin on se fait des passe-passe sur les instruments, on rajoute des plugs, des pianos, puis on tire tout un morceau et au final le morceau il tue. Genre Edge en solo, le morceau il tue, incroyable. Okay. Et à cette époque-là, il n'y a pas Alpha One.
Okay.
Il n'y a pas Alpha One, l'histoire elle peut durer 45 minutes, hein. Le podcast ça presque que ça les gars.
Mais qu'est-ce qui se passe du coup C'est lui qui veut que Alpha One jump sur le son ou...
Même pas, tu vois, moi je rentre à Lille, c'est les fêtes de fin d'année, il y a Nouvel An, Disnox il rentre avec moi, Richie rentre avec moi, Daryl il reste à Paris parce que c'est un gars d'ici. Tu connais, on passe les fêtes, je redescends à Marseille, je rentre chez 13e art à ce moment-là, en vrai je fais ma vie, tu vois. Et un jour, je rentre du taf et tout. Je suis dans mon appart à Marseille et je vois Edge qui m'appelle. Ouais, frérot, ça va ou quoi? Ouais, mon G. Vous dites mon G ici. Vous dites pas frérot, vous dites mon G. Ouais, mon G, ça va ou quoi? Écoute, j'ai un problème. Tu sais, il a une voix, ça se voit, il est embarrassé.
Ok.
Je suis, oh putain, les histoires. Je suis, ah, c'est la merde. Le morceau, il saute, il aime plus, il y a une galère. Il me dit, il y a Alpha, il a posé sur le morceau. Je dis, bah, pourquoi t'as cette voix-là, tu vois, pourquoi c'est une galère et tout.
Ouais, bah.
Il me dit, j'aime pas le morceau. Je dis, comment ça, t'aimes pas le morceau? Je dis, moi, je suis là, je suis tout content, deux doigts de me déshabiller, sauter partout. Je dis, ouais, j'ai Alpha One sur le morceau et tout. Ouais. Je dis, c'est une dinguerie, tu vois. Il n'y avait pas le classico, il n'y avait rien à cette époque. Je ne savais même pas que j'avais placé sous Somanes, tu vois. C'était une folie. Je me dis, putain, c'est trop cool comme placement. Et il me dit, attends, je t'envoie le morceau, t'écoutes, tu me dis. Il m'envoie le morceau. Bah, je te jure que c'était nul. C'est pas nul. Nul, c'est pas le bon terme. C'est pas bien de dire nul.
Là, c'était pas encore la version.
C'est pas la version qui est dehors. Okay. Tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que la construction globale de la prod pour eux, et notamment pour Alpha, bah, ça ralentissait grave le couplet d'Alpha.
Okay.
Et c'était pas cool, en fait. Ouais. C'était pas la couleur du morceau qu'on voulait à la base.
D'accord.
Et du coup, la chance qu'on a, c'est qu'il me dit bah, écoute, semaine pro, on fait toute la réal du projet au Red Bull Studio.
Okay.
Si t'es là, si tu montes à Paris, passe. Je dis, bah écoute, ouais, je serai à Paris. En plus, j'ai du travail là, pour des artistes de Marseille. On monte, je suis là. Je passe ces deux jours-là, jeudi, vendredi. C'était chaud, calme une session avec Alpha One jeudi soir et on enchaîne. Il me dit, vas-y, je l'appelle direct, on cale ça. coup de chat, Alpha, il est là. Donc, on fait la session le jeudi après-midi au Red Bull Studio. Le soir, on retourne au Goldstein, Alpha vient. Et qu'est-ce qui se passe ? On reprend tout le morceau et en fait, on se retrouve, on refait quasiment toute la prod. Alpha, il change quasiment, même je crois, il a changé tout son texte, il a tout réécrit. Mais tu sais, c'est une session à la base, elle aurait dû durer 2 heures.
Okay.
Elle a commencé à 20h, on a terminé à 6h30 du matin, tu vois.
Ah ouais.
Mais tu sais, une session grave bon enfant. Okay. Alpha, il écrivait 2 phrases, puis après on écoutait du son, puis après ça discutait, je me souviens.
Ça s'est fait naturellement.
Quoi. Ouais, ultra naturel. Il y a eu un débat pendant 40 minutes sur la sauce Hannibal, qui est une sauce de chez nous à Lille, que t'entends nulle part ailleurs, tu vois. Genre des vrais trucs, tu vois. Vraiment une session bon enfant, vraiment okay. Vivante.
Ah, c'est cool.
Et au final, on sort le morceau qu'on entend aujourd'hui, qui a été clippé et tout, qui est grave cool au final. Okay, tu vois.
Et tout le monde était satisfait.
Tout le monde était satisfait.
Que ce soit vous, les producteurs.
Tous.
Alpha One.
Non, c'est vraiment un bon morceau. Il y a plein de bons trucs. Puis, même, tu vois, Edge, il a fait pas mal de dates cette année. Quand tu vois les vidéos sur le morceau, les gens reprennent le refrain. C'est grave cool.
C'est un des morceaux phares du projet.
Tu vois. Non, je suis trop content de ce morceau.
Très bien. Belle histoire, en tout cas. Il y a vraiment un background.
Ouais, il y a un vrai vécu. Il y a un vrai vécu.
Troisième morceau qu'on a choisi, on en parlait en intro. Mmh. Du coup, SDM, Lien du Sang, Disque d'Or, Ragnar. En coprod, il y a Franklin, Almes Beats et Jordan, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Dis-nous tout, comment ça s'est passé. Parce qu'on a vu pas mal, nous, sur les réseaux. On a reçu, du coup, la saison précédente, 8makers.
Mmh.
Des sessions avec 8makers, avec OGs aussi. Ouais. Mais au final, vous avez réussi à vous engouffrer dans ce projet-là.
Pour t'expliquer vraiment, il y a une histoire derrière ce morceau parce que c'est assez marrant. La prod, elle remonte du temps au Bossert Marseille avec Franklin, Almes Jordan en 2020. Enfin, la première version de la prod où on essayait notamment de viser un peu un style crack, revisité, inspiré de Black Skinhead de Kanye West, tu vois.
C'est vrai qu'il y a ce truc de Black Skinhead dans la prod.
Il y a cette influence de fou. Puis la prod dormait, c'est Franklin qui travaille beaucoup avec le 9-2-I notamment, qui a session avec SDM, et SDM lui dit « je veux quelque chose de différent ». Et paf, il sort ça, et il a retravaillé un peu le truc en session, tout ça, repris une version, rajouté, réenlevé des éléments, et ça donne le morceau, tu vois. Mais du coup, c'est marrant parce que au final, le morceau sort là, fin 2022, et ça reste...
Tu savais que ça allait être le premier extrait, on vous l'a dit derrière.
Pas du tout.
Vous l'avez découvert comme nous tous.
Ouais, enfin, Franklin l'avait annoncé, oui. Tu vois, il m'avait dit que ça allait être clippé, tout ça, mais c'est un des derniers morceaux qui a été fait du projet.
Ok.
Si ce n'est le dernier, parce que ça a été fait, ça c'est allé super vite, hein. Je crois que c'est une histoire de morceaux fait en septembre. Pour une sortie en novembre, du coup.
Ouais, parce qu'en plus, j'avais vu octobre, pendant son passage sur le code avec Mehdi Maizi, il disait que pendant le concert avec Booba au Stade de France, il avait annoncé une date de sortie du projet.
Mmh.
Et derrière, il s'est rendu compte qu'en le réécoutant, l'album n'était pas prêt. Du coup, il a retravaillé dessus. Au final.
Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est quand il annonce la date de sortie d'album au Stade de France, je suis là avec le chroniqueur sale. Et on avait réussi à dégoter 2 places. En plus, on était max de ouf. Hein. Et je le croise à l'after show. Après, j'ai pas eu le temps de lui parler, mais vu qu'il avait annoncé la date, je me l'étais pas mis en objectif, tu vois, d'aller le voir pour lui dire frérot, t'es chaud, je suis au temps des prods et tout. Je l'avais jamais croisé avant.
Okay.
Et je savais pas encore que j'allais être sur le projet, tu vois.
Ah ouais, c'est un truc de ouf.
Je savais pas que Franklin, je crois, il fait la session une semaine après, une semaine, 10 jours après. Il m'envoie un message. Il dit ouais, gros, si tu veux tout savoir, j'ai fait ci, ça. Je dis bah, putain. Moi, vraiment, je crois que ce morceau, c'est la plus grande définition de coup de chat. Vraiment, c'est... Après, l'audace, ça permet d'avoir ça aussi, j'ai envie de dire, mais vraiment, en plus, j'en suis content, il a été bien accueilli, donc c'est cool, c'est grave cool.
Dernier morceau de notre sélection, on pouvait pas ne pas en parler, les Galactiques, grosse équipe, Jules, Naps, Gims, Alonso.
Bientôt single d'or, en plus.
Ah ouais, Rof, Karis, Sosomanes. Et t'es dessus avec Riley Beats.
Ouais.
Comment bon ça frérot. S'est fait
Déjà, je suis content parce que c'est une prod 59. C'est une prod typiquement du Nord, même si on l'a pas faite en étant présents tous les deux, qui m'avait envoyé des mélos. C'est une prod qui peut nous appartenir de chez nous. Ouais. mais ouais, en vrai, ce qui est grave cool sur ce morceau, c'est en dehors du rooster, c'est déjà le deuxième du projet. Donc il arrive très tôt. Moi c'était à l'époque j'avais même pas de disque d'or encore à cette époque, tu vois, j'avais pas vraiment d'exposition sur les prods, les compos, les trucs, j'étais même pas vraiment mis en avant. C'est Baby Boy qui m'envoie un message qui dit écoute frérot, on lance un gros projet, là, t'es chaud, t'es dans le groupe WhatsApp. Je dis, bah ouais, carrément, il met dans le groupe, il y a 20 compos, c'est 1500 prods envoyés en deux jours, tu vois. Donc je me dis,
c'était comment le stockage du WhatsApp, là?
Ah, c'était dur, gros, c'était dur. Je t'ai dit, il fallait désactiver. Hein. C'est moi, je devais choisir si je voulais télécharger. Mais le problème, c'est qu'en plus, une fois que j'ai désactivé, bah, j'étais le genre de con, bah, je retéléchargeais tout pour écouter ce qu'envoyaient les autres et voir, voir si j'étais hors sujet, si j'étais bon, si j'étais pas bon. Tu vois, j'essayais de me juger un peu en niveau. Surtout, il y a des grands compos hein, dans le groupe, mine de rien, tu vois. Et j'envoie cette prod et pas de nouvelles. Puis un jour, c'est Dance qui bosse beaucoup avec Soso, avec qui j'ai notamment beaucoup bossé sur Zamdan. Doc Dance qui me dit frérot, ils sont en train de poser sur ta prod là, c'est chaud. Hein. Je dis ah ouais, et tout, c'est comment? Il me dit putain, il veut pas me dire la compo en plus. Il me dit si Jules fait ce qu'il dit, t'as une compo de fou sur le track, genre. J'ai dit, ah ouais, comment ça, un truc? Il me dit, ah, je te dirai pas, je veux pas spoiler si ça se fait pas. Il m'a pas dit.
Okay.
Et je l'ai appris au moment de la sortie du projet.
Ah ouais, d'accord.
Et j'étais comme un fou. C'est incroyable. Déjà, t'arrives devant tes parents.
Tu dis, t'as des anciens, t'as de tout là. Dans le...
Ouais, bah ouais, comme. Je vais dire comme je disais tout à l'heure, mais il y a eu un petit off entre deux. Mais tu vois, ce qui est bien sur le projet, c'est qu'il y a trois tracks aussi. J'en ai un deuxième, j'ai Sopra, l'Algerino, Linda, Nina Mayem. Il y a, comment elle s'appelle, Dina, tu vois. Un autre avec des plus anciens, Elams, Al Capote, Menzo, Laura Luciano. Donc c'est grave cool parce que les trois potes que j'ai sur le projet, elles sont sur trois couleurs, trois typologies différentes. Et... Surtout, je peux aller voir ma grand-mère et dire maman, enfin mamie, du coup, maman, c'est bizarre, ça va. Ça va accentuer les rumeurs là. Sur le 59, là. je vais dire mamie, regarde, j'ai Soprano, j'ai Gims qui pose sur ma composition. Et tu vois, ta grand-mère, elle te regarde, elle dit bon, elle te dit c'est bien parce qu'elle comprend pas ce que t'as fait sur le morceau, tu vois, mais elle est contente pour toi et c'est grave cool. C'est grave cool. À cette époque-là, c'était quand même une énorme ouverture, tu vois. Ça m'a ouvert plein de portes, j'étais trop content. Et même, c'est trop sympa d'écouter, de placer des gens que tu écoutes depuis. Tu prends des charismes que tu écoutais, qui marquent ta fin de collège, qui marquent ton début de lycée. Tu prends un Gims que tu entendais à la radio, qui est une star internationale, c'est quoi ça. Qu'on dise. Ouais. Sopra qui a fédéré des générations et des générations.
Bah, tu parlais de ta mamie tout à l'heure, Soprano, elle l'identifie
facilement, très facilement. Tu vois, c'est des artistes populaires, c'est des artistes du peuple, mine de rien, tu vois. Et, c'est un honneur de ouf, même de placer des plus anciens, tu vois. Tu prends des Laura Luciano, des Menzo, qui sont des, je vais pas dire des fossiles, mais qui sont des bases du rap français.
Fort.
C'est grave un honneur, franchement. Gros SO à Jula Baby Boy, parce que ça a été une vraie opportunité, tu vois.
On aurait pu continuer avec d'autres morceaux. Tu parlais de Zamda.
1, 2, 3, 4.
On vous invite à aller checker. Là, du coup, on mettra le lien en bio. Ton Genius, comme ça, vous voyez tout ce qu'il a pu faire. Mais justement, parlons de ce que tu peux faire. On a parlé beaucoup du beatmaking. Tout à l'heure, tu parlais justement de Darryl Wright et Diznox. Parallèlement à ta casquette de beatmaker, tu es DA, directeur artistique et talent scout au sein de RCA, à l'intérieur de chez Sony.
C'est
depuis
ça.
Depuis juin 2022, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, du 1er juin.
Et du coup, ouais, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu en quoi ça consiste et comment la connexion aussi elle a eu lieu avec... Sony.
Bah tu vois ce qui est je vais commencer par la connexion hein, pour continuer à raconter mes histoires de A à Z mais pour commencer par la connexion vu que c'est lié au beatmaking directement et c'est ça qui est lourd.
Okay.
C'est que je bossais avec Soso à Marseille.
Okay.
Où je fais réveiller sur Avec le temps avec Geo on the track et ensuite on a continué à bosser et tout et c'est là où je rentre en contact avec Thomas Ballmayer du coup qui est directeur de la création chez RCA. Où derrière on rebosse Crépuscule avec QAM tout le piano que j'envoie à Thomas ou Thomas kiffe le piano Dance aussi je lui avais envoyé qui fait écouter à Soso en séminaire ils sont tous d'accord sur le morceau qui pose une première version du morceau et Thomas après prend la directive de DA et il a grave eu raison de le faire d'envoyer la grosse basse piano qu'on avait faite avec QAM à Deville et Trizy. Et Deville et Trizy qui vont rajouter d'autres instruments pour pousser le tout et qui donnent le morceau qui est dehors aujourd'hui, qui est un super beau morceau d'ailleurs. Et du coup, bah, je connais Thomas comme ça, qui apprend que j'arrive à Paris, qui m'a offert le premier CD disque d'or de Soso Maness là, sur Avec le temps. Donc, parce que c'est pas anodin, tu vois. Il y a très peu de DA qui offrent les disques d'or aux compositeurs. Donc ça déjà c'était grave cool pour l'époque. je le rencontre en vrai en allant chercher quand ils étaient au studio la Vernation chez Loco, avec qui on fait beaucoup de projets, notamment aujourd'hui. Donc on se rencontre, on discute un peu, il sait que j'arrive à Paris, on se recroise en sortie de bar. En plus, j'étais en rendez-vous, tu vois, lui il était là, on se recroise complètement par hasard, il dit bah t'es là et tout. Et il me dit, tu chercherais pas un travail par hasard? J'étais en stage de fin d'études, tu vois, je dis okay. Bah écoute, chercher c'est pas le bon terme, parce que moi dans mon plan j'avais prévu de faire mon stage de fin d'études, et après je voulais prendre quelques mois pour moi, c'est pour vraiment bosser la musique pure et dure, j'ai même pas eu le temps. Et... il me dit, je dis, bah écoute, propose-moi et on avise. Je sais pas de quoi tu veux me parler. On s'est vu, on a discuté, c'est là où il m'a parlé du poste. Et forcément, bah, grave chaud. Hein, poste de DA, c'est beaucoup de responsabilités, mine de rien. Mm-hmm. C'est pas simplement, je suis en studio avec un artiste, je lui envoie des prods et j'écoute. En tout cas, moi, j'ai envie d'être le DA qui s'investit beaucoup dans les projets, à la fois musicalement, à la fois dans l'aide à la réal, dans les mix, dans la couleur, parce que j'ai la chance d'avoir cette oreille, on va dire, de comprendre ce qui se passe artistiquement. Et vu que j'ai fait une école de commerce aussi à côté, à la base, mm-hmm. je suis pas du tout d'une formation du son et des choses comme ça, bah j'ai aussi cet aspect business, négociation, gestion de budget, tu vois, qui est important. Et, ouais. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir cet investissement et ces responsabilités d'une gestion de projet. Et le poste de DA aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est être capable de détecter les nouvelles tendances, de comprendre ton artiste, de comprendre ce qu'il veut, de comprendre un peu les codes aussi de l'audience. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. De savoir générer une cohérence globale autour d'un projet, de le mettre en place et de faire avancer tout ça main dans la main avec les équipes social créatives que tu peux avoir, les chefs de projet, les équipes market, bah du coup les chefs de pro forcément, la promo, le stylisme, la synchro, les brands, tu vois, il y a plein de trucs intéressants à faire. Et c'est ça qui est cool dans ce taf, c'est à la fois que tu as un grand esprit créatif en place et tout est possible. Tout est possible. Tu peux, bien sûr, il faut que tu recoupes des avances que tu donnes aux artistes, mais ça c'est un autre sujet. Mais...
Et du coup, La casquette de talent scout, c'est le comment dire, c'est juste avant ce que tu vas mettre en place en tant que DA ou
bah c'est pour moi c'est lié indépendant, ouais. Parce que un bon DA regarde les tendances, est obligé de regarder les tendances, est obligé de regarder ce qui arrive, est obligé d'analyser, de comprendre le milieu, voir les compos qui peuvent être intéressants, tu vois, il y a plein de choses dans ce que j'appelle ça le scoutisme, en tant que talent scout. Mais un bon talent scout, je pense, c'est celui qui détecte avant ce qu'en maison de disque qu'ils appellent les data, avant que ces data soient ouvertes,
avoir déjà toi la vision, voilà. Justement avant que justement puisse
tu sais avant ces data tangibles, avant que ça pète, ouais. Avant que tu vois le mec qui prend 20 000 followers, il y a une traîne qui part sur tel track machin, que toi tu l'aies vu, peut-être que tu sois déjà rentré en contact, mais que toi tu l'aies vu et que tu dises ça peut être une tendance, ça peut être une tendance. Et pour moi le fait d'être talent scout, c'est une, pas un métier, mais c'est une part à part entière du directeur artistique aujourd'hui. Okay.
Ouais, je comprends mieux. Et en même temps que ces différentes disciplines, tu as ta propre boîte d'édition.
C'est ça. À la base, créée pour me protéger.
D'accord. Bah, comme n'importe quel compo, du coup.
Aujourd'hui,
ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette boîte d'édition?
Sur la boîte Play, je l'ai montée pendant le premier confinement.
Ok.
Parce que, bah, pareil, en formation école de commerce, donc... j'avais vraiment cette envie d'entreprendre, d'être mon propre patron. En fait, j'aime pas dépendre de quelqu'un à proprement parler.
D'accord.
Et si tu regardes aujourd'hui, j'ai pas de manager, j'ai pas de j'ai pas de président pour la boîte qui gère indépendamment. Je fais tout seul. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail. Et forcément, à un moment, il va falloir que je délègue. C'est logique. Ouais. Mais aujourd'hui, cette boîte a été montée pour me protéger, pour que je récupère mes droits. Pour que je puisse facturer, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compos qui pensent que pour être payés, ils sont légitimes de demander une somme d'argent au label, à l'artiste, mais sans savoir faire la différence entre le cachet musicien, entre le flat, entre pourquoi le label a besoin d'une facturation, parce qu'il y a des écritures comptables, tout ce qui s'ensuit, et malheureusement, c'est grave important. Et Place, du coup, a été monté pour tout ça, parce que ça m'a permis de facturer les compos, Ça m'a permis du coup de méditer, de protéger mes droits, d'éditer d'autres compos que j'ai développés, des choses comme ça.
Combien à peu près du coup ?
Là, on est une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Après, j'ai des instrumentistes en plus. Je pense à Ara, qui est notamment un énorme guitariste. Onze, qui joue du piano. Daryl Paris, qui joue du piano. Piet et Osmos, qui sont très dans les textures, notamment, tu vois. Et c'est grave cool, ça tourne. Chacun son réseau. Il y a plein de couleurs différentes. Il y a plein de couleurs différentes. Pareil, parce que ça revient à cet aspect, je te disais au tout début, je ne sais pas si on enregistre à ce moment-là, mais où je disais que je n'ai pas envie qu'on dise « Ouais, OB, c'est le compo qui dise ou ce OB et Play, c'est une couleur mélancolique. Ouais. » J'ai envie que si tu appelles OB et Play, c'est parce que les mecs ils vont te vendre un projet, à proprement parler, un type de track qui sera collé à ce que tu fais, qui ne sera pas totalement en dehors de ta DA, mais un projet où tu vas être en session, tu vas avoir une ambiance de travail, une méthode de travail, et au final un track qui est vraiment bossé dans l'esprit de l'artiste et dans la couleur de ce qu'il veut sur le moment.
En plus, ça fait vraiment totalement sens avec ce que tu débutes depuis le début, et vraiment cette volonté, même cette passion que tu as à accompagner un projet de A à Z, quoi. Donc,
ça fait totalement pour moi, sens. Pour moi, tout est lié, tu vois. Après, faut pas que j'en abuse non plus, dans le sens où sur un projet pour lequel je suis directeur artistique, je pense pas avoir la légitimité pour dire que je peux être le compositeur phare du projet sur lequel je suis directeur artistique, tu vois. Okay. Parce que je trouve, un, c'est pas honnête vis-à-vis du label et de l'artiste. Et deux, un poste de DA à proprement parler, ça reste très différent du compo. Mais un poste de compo, quand je suis compositeur sur un projet, tu as la légitimité pour prendre la direction artistique du morceau, parce que tu sais que tu as ce recul-là et tu sais un peu combien ça va te coûter, comment tu vas le faire, c'est quoi les couleurs que tu vises, c'est quoi tes références et les chemins que tu souhaites prendre vis-à-vis de ça. Tu vois. Et c'est là où je suis content, parce que tout est toujours relié à chaque fois.
Non, ça tue. Je comprends totalement du coup le raisonnement, l'enchaînement et les différentes connexions par rapport à toutes ces casquettes. Mais dans le milieu, là, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui a ces multiples casquettes comme toi, tu les as, ou pas du tout?
Proprement parler, Thomas, mon patron, met pas en avant le fait que c'est un... Parce qu'il le fait par passion, vraiment par passion, pas par placement et tout, mais lui-même est compo à la base.
Okay.
Il aime composer à la base. Du coup, il a un peu cette double casquette aussi. Même si lui, son taf pur et dur, c'était directeur de la création, et il mettra que ça en avant, tu vois. Après, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont transverses, hein, patron d'entreprise, machin, etc. Mais avoir cette multiple casquette-là, j'aurais pas d'exemple à te donner pour le moment. Après, je peux te le donner dans d'autres domaines. Je pense au chroniqueur sale notamment, tu vois, qui peut être youtubeur, chroniqueur, tu peux voir beatmaker aussi, mais que tu peux voir sur d'autres EV aussi, qui anime des conférences, notamment pour Adidas, des choses comme ça. Là. Donc, il y a plein de gens, je pense, qui sont multiples casquettes. Et je pense aujourd'hui...
Ouais, c'est vrai, juste nous, on a eu le focus par rapport à tes trois disciplines, quoi, mais ouais, tu comprends mieux.
Mais de toute façon, je pense aujourd'hui, si tu veux réussir dans la musique, que ce soit en tant que compo, en tant que DJ, en tant que ce que tu veux qui est rattaché à l'entertainment et à la musique, faut que tu sois un peu multiple casquette, faut que tu aies un personnage en fait qui soit capable d'assumer ce qu'il aime et qui fasse vraiment que ce qu'il aime, tu vois. Tu peux pas, je pense aujourd'hui, tu peux plus t'enfermer que dans un style et te focus que sur ça. Même si tu le vois sur des compos, je pense à des flemmes qu'on appelle beaucoup pour des prods sombres, Dermin Farsi, même BK.
Quoique flemme au final, quand on voit les prods qu'il a fait sur le Chacola, ou même ce qu'il est en train de faire avec Jay Brownie, on voit que même s'il est cantonné à cette image sombre, comme toi tu as pu le dire avec le Type B Joule, lui aussi il a d'autres trucs à montrer. Donc
c'est sûr. Mais je pense que les compos aujourd'hui n'aiment plus s'enfermer que dans un truc. Ouais. Je pense à même, tu regardes BK, on l'appelle beaucoup pour des trucs beaucoup plus new wave, très drip. Tu peux avoir Scar Enardé que tu vas appeler pour de la drill, mais alors Scar, Scar, il est sur des sons avec Morad, tu vois, c'est pas que de la drill, donc les gens aiment plus s'enfermer que dans un style, je pense, et c'est ça qui te fera avancer dans le monde de la musique globalement, c'est d'avoir ces multiples couleurs, ces différentes couleurs.
J'ai regardé une interview de Kenny Beats qui disait la même chose, justement, de aujourd'hui, un compo, il ne peut pas se cantonner à un seul truc. Donc, ouais, ça fait totalement ça, c'est ce que tu dis. Mais je me dis, là, en voyant tes différentes casquettes, là, dans tout ça, est-ce que tu te reposes? Et si oui, comment tu fais?
Là, pour le moment, je vais pas te mentir, je fais pas. Hein. Ouais. Je fais pas. Je profite de mon jeune âge à proprement parler. Jeune âge entre guillemets, bien sûr, hein, parce qu'il y a toujours plus jeune, plus fort. Mais
ouais. Mais tu frôles pas justement le burn-out ou autre. Ça va,
pour le moment, ça va. Okay. Pour le moment, ça va. Et j'ai une mentalité qui dit, bah, même si là, je sais que je vais traverser des périodes qui vont être plus compliquées mentalement, qui sont plus difficiles parce que c'est beaucoup de travail, par moments c'est beaucoup de pression, c'est des attentes, des responsabilités qu'il faut savoir assumer mine de rien, et qu'il faut pas, par lesquelles il ne faut pas se laisser dépasser, sinon on ne s'en sort plus. Ça n'empêche que je me dis, frère, c'est maintenant. Ouais. T'as pas le choix, genre. T'es dedans, tu l'as voulu, c'est les décisions que t'as prises, assume-les, va au bout des choses, tu vois, et...
Il y aura un moment où tu auras le repos.
J'aurai, de toute façon, j'aurai le repos plus tard. Je sais bien que le monde de la musique, c'est éphémère. Ouais. C'est éphémère. Aujourd'hui, bah, t'as un peu de hype, ok. T'as un peu de réussite, ok. Va au bout des choses. Et le jour où ça s'arrête, bah, reconversion, tu feras autre chose. Il y a plein de choses que j'aime dans la vie à côté, en dehors de ça, qui pourront me faire avancer. Tu vois.
Comme. Dis-nous.
Comme, ah, la restauration. J'adore la restauration.
On est dans le pays en même temps où, ah, franchement,
ouais. Ah ouais, non, y a
on est bien gâté.
Là, le sport, la restauration, non, il y a plein de domaines que je kiffe, tu vois, où j'ai envie d'entreprendre, faire des choses plus tard, quand j'aurai une petite famille, cool. Si Dieu veut, mais...
On note. Très bien, c'est cool. À côté de ça, par rapport du coup à tes multiples casquettes, ça m'intéresse de savoir les derniers beatmakers ou artistes qui ont attiré ton attention, que ce soit ces derniers jours, semaines ou mois. Si tu devais nous en citer, allez. 2-3.
Il y en a, franchement, il y a plein de trucs. Hein.
Vu que tu collabes pas mal, je me dis,
je vois plein de choses, tu vois. Pour rester dans mon équipe, tu vois, mettre en avant le petit Ara qui est dans sa chambre à Nantes et guitariste de fou, une musicalité folle, tu vois, je trouve ça ultra intéressant. Là, en ce moment, en artiste, moi, je bosse beaucoup avec Stony.
Ok.
Stony Stone, bah, on se connaît notamment ce qui est proche de Zam, tout ça, et même aujourd'hui c'est un frérot, hein, on se comprend bien, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup, on a bossé des tracks. Il est dans les 11 à suivre, ouais.
La prod, c'est Tug Dance en plus qu'il a fait.
C'est Tug Dance, c'est pour mieux Tug Dance. Ouais, je mettrai une petite pièce sur Stony là, avec ce qu'il prépare, notamment là, le Step 10 qui va sortir, qui est très très chaud, très très chaud. Et si je dois t'en parler un dernier, j'aimerais bien te prendre un baby.
Un qui n'est pas encore sur les datas, du coup, c'est ça?
Ouais, bah, il y en a plein. Regarde, carrément, je peux te montrer. Regarde, tu vois, il y a toute une playlist. Je ne sais pas si je peux montrer.
On va zoomer à la caméra.
C'est ce qu'on appelle la relève. Tu vois, il y a plein de tracks. Je ne suis même plus sur le micro. Je ne sais même pas si on m'entend, mais bref. Tu vois, il y a plein de tracks qui passent, il y a plein de trucs. Et c'est ça qui est grave cool, parce que dedans j'enregistre toujours les artistes que je capte, les nouvelles tendances, les nouvelles têtes que je peux voir.
Ça permet de voir l'évolution entre
les à chaque fois. Tu vois, par exemple, j'avais mis Harley qui a bien bien avancé, qui est sur un registre beaucoup plus Amapiano, couleur nigériane, Afrique du Sud. Là, tu vois, il y a Joe Lagrin, là, qui a fait la première partie de Kershak, que j'aime bien, que je trouve intéressant. Sur le style un peu plus New Wave, tu as Selug et Senar, qui ont un feat avec Luther qui est grave cool en plus. Tu as 34 Murphy, je ne sais même pas si on dit à l'anglaise, en plus, ça se trouve, je prononce mal les blazes. Hein, mais tu as Lotus qui te propose des jerseys en mélo. Tu as Rojo, que je trouve ultra intéressant, qui est beaucoup dans les instruments, notamment joué, qui fait tout seul, prod, compo, mix, master. Okay. Non, il y a plein de petits monstres comme ça qu'il faut trouver.
Très bien.
En vrai, c'est ces gars-là, moi, c'est dans ces gars-là que je trouve aussi une inspiration, parce que quand tu vois la manière qu'ils ont de se débrouiller et de sortir le track parce qu'ils ont la dalle, parce qu'ils veulent avancer.
Ça te rappelle la débrouillardise de tes débuts, par exemple.
Ouais, en vrai, puis même à proprement parler, je suis encore au début, je pense, aujourd'hui, même si...
Trois ans, c'est quoi?
C'est rien, non.
C'est dans l'année de Michael Jordan, là, en plus, donc...
j'ai le temps, c'est la... En vrai, pour moi, tu vois, Je pense que 2020, ça a été des bases. 2021, ça a été une première avancée. Mmh. 2022, je ne vais pas dire une confirmation, mais une installation, on va dire. Et 2023, c'est là maintenant où je peux vraiment lancer les projets et aller au bout des choses, quoi.
J'ai même pas besoin de faire la transition, c'est toi qui l'as trouvé. J'allais te poser la question par rapport à ça. T'as émis toi, sur les réseaux que 2022.
Je vais me poser les questions tout seul.
T'as émis que 2022, c'était l'année la plus aboutie. Mmh. Et voilà quoi, ouais, 2023, du coup, il y a tout ça qui arrive. Non, c'est chaud, c'est chaud. Bah, tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, on a hâte de voir
les
différents projets, les différentes sorties.
J'ai hâte de voir aussi. Je suis sûr, il y a des trucs que je suis même pas au courant.
Comme le classique organisé. Hein.
Ouais, mais comme beaucoup de choses, hein, classico de Joule, à chaque fois que j'ai placé Joule, j'ai découvert les morceaux sur les projets. Donc.
Ok. On arrive tout près de la fin. Quelques dernières questions. Déjà, quel conseil tu donnerais à un beatmaker qui veut se lancer là, en 2023?
Je vais te faire la réponse un peu bateau. Genre que sûrement tout le monde te dit à chaque fois, qui est ne pas lâcher. En vrai de vrai, si je dois l'approfondir, ne pas lâcher, ça reste vague, tu vois, parce que aujourd'hui, c'est très compétitif. C'est très très compétitif, il y a plein de gens, il y a plein de couleurs, il y a plein d'artistes aussi. Mais ce que je dirais, c'est en plus de ne pas lâcher, c'est d'être malin, se staffer. Comprendre le business, comprendre les enjeux, comprendre ce que demandent les labels, les artistes. Savoir mettre son ego de côté. Et Dieu sait que ça, c'est sûrement mon plus grand défaut.
C'est un truc sur lequel tu travailles tous les jours.
Ah ouais, c'est dur. Mais parce que tu sais, c'est beaucoup un milieu où de légitimité. Quand tu parles à quelqu'un, tu dois être légitime de lui parler, de lui faire la remarque que tu es en train de faire, tu vois. Et du coup, tu as tendance, des fois, ouais, ton ego te dit mets-toi en avant.
Il y a certains compos, ils sont en mode t'as produit quoi, toi, genre, quand tu vas parler.
C'est ça. Mais c'est une forme de protection, mine de rien, tu vois. C'est même pas méchant ou dans le but de dire je suis meilleur que toi. C'est en mode écoute, frérot, si je te dis ça, c'est parce que je l'ai vécu, tu vois. Mais savoir mettre son ego de côté, parce que des fois, ça peut te niquer des placements. Et, je sais que j'en ai fait les frais, en vrai, faut le dire aussi. Et. Se staffer, être déterminé et surtout être patient.
T'en parlais aussi en off, je sais plus si c'était en off ou pendant l'enregistrement, mais tout ce qui est production, production à la chaîne ou autre, industriel, est-ce que toi, selon toi, c'est un truc à faire quand même, si tu dans les débuts, si tu veux
un ça petit dépend peu... ce que tu veux faire.
Ouais.
Ça dépend ce que tu veux faire, la couleur que tu veux te donner, tu vois, si il y en a, ils sont là. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais il y en a, ils sont là parce qu'ils veulent faire du chiffre, parce qu'ils veulent faire de la masse, parce qu'ils veulent prendre un max de flat, ils veulent faire un beat star, du type beat et faire de l'argent. C'est tout à leur honneur, tu vois.
Chemin, quoi.
Ouais, c'est chacun. Moi, je pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais beatmakers. Je pense que chacun a sa vision du truc. Chacun sait ce qu'il veut faire. Chacun voit où il veut aller. Et chacun met en place la stratégie qu'il a envie de mettre, tu vois.
Totalement.
Si tu veux faire de l'argent sur des type beats. Fais, frérot. Fais, si ça marche pour toi, tant mieux. Si tu veux rester dans ta chambre, faire des trucs ultra travaillés, garder cette couleur-là et que tu seras plus mis en avant parce que t'es très nouveau, fais.
Okay,
tant que toi, t'es heureux.
C'est l'essentiel.
Ils vont dire quoi, les autres?
C'est ça. Du coup, à côté du beatmaking, quelqu'un qui veut se lancer dans la direction artistique.
Quelqu'un ça, c'est fourbe.
Ouais.
C'est fourbe. C'est très fourbe. C'est très fourbe parce que je pense que chaque patron de DA, chaque patron de label a une vision
différente.
Et en France, chaque label a mine de rien une couleur.
Okay.
Tu vois, la couleur que nous, on peut avoir chez RCA Urbain n'est pas la même que la couleur qu'on peut avoir chez Epic. Okay. Alors que c'est le même groupe.
On peut faire le parallèle avec même d'autres secteurs d'entreprise. Ou d'autres. Tu sais pas, tu prends un média, tel journal, il a sa couleur.
Sa ligne directrice, voilà, en fait. Tu vois, sa ligne édito.
Édito, tout ça. Okay.
Et si tu veux te lancer en tant que DA... Un, faut que tu saches ce que tu veux faire. Faut que tu te renseignes bien sur le poste. Et je pense que le meilleur conseil que je peux donner pour un DA, c'est d'être malin. C'est d'être malin et d'être réfléchi. Parce que c'est les meilleures qualités. Après, c'est toi qui vas parler. Hein. C'est ce que tu es capable de prendre des responsabilités. Est-ce que tu es capable de gérer un projet, de comprendre un artiste, son équipe, son ego, ses enjeux, ses volontés. D'être capable de comprendre les volontés d'un label, mine de rien aussi, tu vois, et de... parce que c'est un chemin au final, c'est toi qui relis les volontés du label par rapport à l'avance que tu donnes, parce que ça reste un business, et de comprendre les volontés artistiques de l'artiste, de écoute frérot, je préfère mettre tel track en avant parce qu'il me parle plus, ou tel track, alors que toi tu préfères l'autre track parce que c'est plus un hit et que tu sais que ça peut être... Enfin tu vois, c'est beaucoup de réflexion. Et j'ai pas vraiment proprement parlé, donner un conseil pour un mec qui veut se lancer en tant que DA,
c'est chaud.
C'est dur.
Ouais, parce qu'il n'y a pas de formule magique.
Non.
Pas de formule type. Quoi.
Non, et je te parlerai par rapport à mon expérience à moi.
Ouais.
Mais
après, on est là pour ça en vrai. Si on te reçoit, c'est pour que tu donnes.
Non, bien sûr.
Pour les gens qui vont voir justement tout ce que tu as pu faire, savoir.
Bien sûr.
Justement.
Mais le DA qui va bosser chez Believe, le DA qui va bosser par exemple, c'est Eros qui est, qui est l'équivalent de chez Thomas, chez Warner, chez Didier, avec Salsa. Eux, ils ont sûrement une typologie pour recruter un DA qui est différente de celle que nous, on peut avoir chez Sony, qui est sûrement différente de celle qu'ils peuvent avoir chez Virgin, par exemple, avec Romain Tout-le-Monde, Thomas Lorrain là-bas, qui est sûrement différente que Henri Jamais peut avoir chez Believe et tout ce qui s'ensuit, tu vois.
Ok, très bien. Je comprends mieux. Je comprends mieux.
Mais juste, là, je sais pas, les frères, soyez malins, c'est tout.
Ok, très bien, très bien, très bien. Du coup, on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux. Tom_DCSTR.
Ouais, ouais, ouais.
Pas de bêtises, c'est bon.
C'est bon.
IG, Twitter. T'as parlé d'un prochain lancement sur TikTok, peut-être.
Peut-être, peut-être, peut-être.
On sera à l'affût. Si entre-temps l'épisode y sort et qu'il y a un TikTok, on mettra le lien en bio. Avant de te libérer, OB, tradition chez De La Musicopolis, c'est de ne jamais laisser le siège vide. Mmh. Donc, si tu devais avoir quelqu'un à inviter, à envoyer ici, à ta place, devant le micro, qui ce serait ?
Ce serait le chroniqueur sale.
Ok.
Pour la simple et bonne raison qu'on on parle toujours du chroniqueur pour... ses analyses, ses chroniques, son franc-parler.
Lui-même, on n'en parle pas.
Ouais, pour lui-même. Mais on parle trop peu du chroniqueur sale en tant que beatmaker.
Okay.
Et on parle trop peu de la couleur qu'il a pu apporter à certains projets, que ce soit sur Bébé Jacques, que ce soit sur Benjamin Epps.
C'est sale, hein. Ah ouais, hein.
Et du coup, je pense que mettre en avant cet aspect-là, ça peut être intéressant.
C'était Dans le monde d'OB. On espère que vous avez kiffé l'échange. Moi, j'ai tellement kiffé l'échange que j'en ai perdu mon bonnet. Enfin, bref. Encore un grand merci à lui d'être passé au micro de la Musicopolis. Gros shout-out et méga sûr du Poncel Jelly Host. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, le mardi 28 mars, pour un Dans le monde de DST, de Danger, en personne avec nous ici même au studio. Prenez soin de vous. Peace!